les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en soumissant, pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence.
J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'école de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et Radio Primitive sur Reims, et aussi sur le net OC Libertaire, ou le Chat Noir 51. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Bonsoir.
Faut pas croire, mais on n'était pas en direct là.
Non, on se permet de faire des génériques en différé quand on arrive en retard et tout ça, c'est bien. Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, on va continuer à parler d'antifascisme, puisque la semaine dernière, on voulait poursuivre cette thématique-là et l'actualité nous en a empêché.
L'actualité brûlante.
Voilà, l'actualité brûlante nous en a empêché. Donc, nous allons écouter pendant une quarantaine de minutes l'interview d'un des membres du Scalp Reflex, du groupe du même nom, Scalp Reflex de Paris, qui va nous raconter comment et pourquoi, ensemble, ils ont décidé de se dissoudre et de cesser de stopper l'activité. C'est extrêmement intéressant par rapport à la situation actuelle, parce que ce groupe, Scalp Reflex, le groupe Reflex est, d'une manière générale, l'histoire des scalps, des groupes scalps en France et plus précisément à Paris, ont été une tentative d'organisation, une tentative de riposte et de réponse et d'analyse du phénomène de l'extrême droite, de la montée du Front National plus particulièrement, et de penser un antifascisme qui serait radical, voire révolutionnaire, et qui pourrait se distinguer de l'antifascisme républicain auquel on risque d'être confronté incessamment sous peu, et ça on en reparlera peut-être dans la seconde partie de l'émission. Alors voilà, cette interview a été enregistrée dans le cadre d'une émission de FPP, donc je remercie Nadia de nous l'avoir mis à disposition. Ça dure 40 minutes et on se retrouve après.
Bon ben bonjour Thomas, on a décidé de faire une émission sur la dissolution du collectif Scalp Reflex. Vous avez publié un texte expliquant cette décision et on va revenir un petit peu d'abord sur l'origine donc de ce groupe, de ce collectif, et petit à petit l'évolution que vous avez eue dans votre perception de l'antifascisme, de l'antiracisme, comment il a évolué au cours de ces décennies et pourquoi aujourd'hui vous en êtes arrivé à la dissolution du groupe Scalp Reflex et puis pour en faire quoi. Hein, ce sera la dernière partie de l'émission, savoir si vous pensez plutôt carrément vous dissoudre ou sinon reconstruire un autre mouvement et sur quelle base. Donc on va commencer peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas le collectif Scalp Reflex sur l'origine de sa création. On est dans les années 80 et vous décidez, et là tu vas nous raconter, à un petit groupe de monter le groupe Scalp Reflex.
En fait c'est le début des années 80, donc la première moitié des années 80, c'est des gens qui viennent de Nanterre, entre autres pas mal d'anciens de la Clé, terrain Nanterre, la fac qui, avec la montée, enfin, eux, ils analysent la montée de l'extrême droite qui vient juste d'arriver avec la percée en Ascène de la Dreux et puis toute la dynamique qu'il y a autour du Front. Et à l'époque, est pas du tout un parti extrêmement connu, qui est pas du tout central dans la vie politique française.
Et qu'on qualifie de fasciste d'ailleurs.
Oui, qu'on qualifie de fasciste et qui fait rire tout le monde et qui fait rire beaucoup la classe politique qui, dans un premier temps, la première moitié des, enfin, toutes les années 80, va utiliser le Front National comme un repoussoir pour gagner des élections, que ce soit la droite comme la gauche. Et ces gens-là, ils disent, en fait, c'est pas un épiphénomène. Le phénomène va durer et donc il faut l'analyser, il faut le combattre. Parce qu'en fait, va devenir central dans les années 80, et sur cette question-là, ils ont raison, puisque le Front National va impulser en tout cas toute une série de thématiques fin des années 90, sur la question de l'immigration, sur la question de la préférence nationale, qui vont être centrales dans le débat politique français, et sur la droite comme la gauche, ils vont être obligés de se positionner. Il y a bien sûr là aussi les questions sécuritaires, petit à petit, en tout cas, je pense à l'époque, à amener petit à petit la gauche aussi à se rapprocher des idées de la droite sur les questions sécuritaires. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que début des années 80, c'est l'élection de François Mitterrand, qui est le premier président de gauche socialiste, et que c'est un formidable espoir pour l'ensemble de la gauche sur le thème, une autre vie va s'annoncer, le gaullisme, la droite, c'est réglé, on va créer quelque chose. Il y a quand même des ministres communistes, donc ça fait aussi peur à tout le bloc occidental, parce qu'on est encore dans la période de la guerre froide, même si c'est un peu la fin. Mais ça, les gens, ils le savent pas encore. Et au début des années 80, il y a pas mal de luttes, les questions de l'immigration, les marches pour l'égalité, 83, 84, qui sont l'émergence d'une revendication de la deuxième génération d'immigrés, de dire à un moment donné, nous aussi, on est chez nous.
Les mêmes droits.
Voilà, on veut les mêmes droits, et tous ces gens-là qui vont créer réflexe, en fait, participent aussi à ces luttes-là. Ils sont pétris de cette question de l'égalité des droits, de la nouvelle citoyenneté. Ils voient l'émergence de l'extrême droite, ils voient l'émergence de l'extrême droite sur les questions d'identité, sur les questions d'immigration, mais aussi sur l'air. Et donc ils créent un groupe, qui va s'appeler Reflex, dont l'objet est d'étudier, de suivre à la fois l'extrême droite, mais aussi les politiques sécuritaires. Dès 86, quand les premiers Reflex, il y a en fait beaucoup, une grosse partie dans la revue qui traite de la question sécuritaire, qui traite de la question de l'extrême droite. Alors à l'époque aussi, hein, c'est pas mal du nationalisme et entre autres de la solidarité avec les Basques. Et puis il y a pas mal de gens qui sont arrêtés, comme ils se revendent à gauche et de la gauche radicale, du coup les gens sont en contact. Et une autre dimension qui est, je pense, très importante, c'est qu'en fait, dès le début, ils sont liés sur elle. Donc en 86, très réflexe, va se créer le SCALP sur Paris juste après, 88. Alors lui, plus des marches de rue et d'activisme de rue, alors que réflexe est plus dans une démarche d'analyse, de rédiger une revue, de mener des campagnes politiques. Alors, ils peuvent se retrouver dans la rue, mais je dirais que la seule différence qu'il y a un peu, c'est ça, c'est que le SCALP à l'époque, sur les travaux antifascistes de rue et dans les facs.
Pour vous, il me semblait bien qu'à l'époque, l'antifascisme se cantonnait pas justement au mouvement fasciste, plus on va dire représenté par le Front National, mais il y avait tout un tas d'autres groupuscules plus violents, on va dire, en tous les cas, en apparence, mais bien aussi sur la question de l'idéologie fasciste qui commençait à imprégner aussi bien la droite que la gauche sur les questions dont tu parlais, c'est-à-dire de son rapport à l'immigration et du racisme.
Ouais, c'est un peu... Pour faire vite, je pense que avec les marches pour l'égalité, avec l'émergence des SOS racistes, il y a tout un antiracisme moral qui se met en place, qui fait que la droite a plus d'espace politique pour exprimer le racisme qu'elle pouvait véhiculer. Par contre, l'extrême droite, elle, assume le racisme, de dire il y a différentes strates de racisme, alors on est en haut. Ça, le problème, c'est que ce truc-là, il est encore très associé à l'extrême droite de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il est encore à l'époque... Enfin, on peut dire ça représente le mal.
Non, mais si, ça représente les camps de concentration, voilà. Ça représente le nazisme, le fascisme, le Mussolini, etc. Ça reste très très proche comme image. Avec, en plus, on sait ce qu'ils ont été capables de faire. Donc, c'est tout de suite très très clair.
Et puis avec un lien direct où, on connaît encore des gens qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, qui ont été résistants, des gens même qui ont pu participer du côté du FLN à la guerre d'Algérie et à des anciens de l'OS qui, pareil, font par droite. Et donc, ça, je dirais que c'est un milieu relativement identifié qui porte une idéologie alliée à, un truc d'ordre, de réaction conservateur, fasciste. Et de l'autre côté, une droite qui est un peu en recul avec la victoire de la gauche. Où, en fait, cette extrême droite, elle va, et c'est ce que dit Reflex à l'époque, en fait, elle va rediffuser toutes ses idées, elle va essayer d'en faire son cheval de bataille. Et je pense autour de deux axes principaux, autour de la question de l'immigration et autour de la question sécuritaire. en évidemment en liant les deux. Et donc tout ce que les gens de réflexe disent, c'est qu'à un moment donné, voilà, nous on est des antifascistes parce qu'on est héritiers de cette histoire de la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Et on veut pas que ces choses elles se diffusent, et on veut pas que à un moment donné le ce qu'on appellera plus tard, parce que ça vient un peu plus tard, mais que la lepenisation des esprits elle se fasse et que ça soit banalisé, que on puisse se cracher sur la gueule des Roms, qu'on puisse mettre les gens dans des centres de rétention qui des fois ressemblent à des pré-centres de concentration. Et donc du coup l'idée c'est voilà, on veut pas que se redéveloppe cette thématique fasciste. Et donc, il faut qu'on lutte sur un certain nombre de sujets. Il faut qu'on lutte, on les lutte sur la question migratoire. On lutte contre les délires sécuritaires. D'ailleurs, les premières affiches, Pasqua, contre Pandreau, qui sont à l'époque les ministres de l'Intérieur.
Il y avait aussi quand même cette idée que le capitalisme porte aussi en germe, surtout dans des périodes de crise, cette possibilité de recourir au fascisme éventuellement pour asseoir leur pouvoir économique et politique. La lutte antifasciste, elle incluait la lutte anticapitaliste pour réflexe et le scalp.
Oui, exactement. Et c'est pour ça que je dirais que c'est la grosse différence avec ce qui va se créer un peu après, qui sera plus lié à l'antifascisme républicain. C'est-à-dire, bah voilà, nous on protège la République contre le danger qu'est l'extrême droite, qui sont des fascistes et qui sont hors de la République. Dit que, au tout début, que non, en fait, la République, elle comporte ses zones d'ombre. Elle comporte ce qu'elle a fait en Algérie, ce qu'elle a fait sous Vichy, et que ça correspond effectivement au système capitaliste qui est en place, qui génère des inégalités, qui a besoin parfois de mouvements comme l'extrême droite pour pouvoir continuer à exploiter, à s'enrichir, et qui parfois le capitalisme utilise comme réponse l'extrême droite pour justement continuer à développer quoi. Même si ça c'est là où nous on diffère un petit peu par rapport à d'autres, je pense que les mouvements fascistes et l'idéologie fasciste a aussi une certaine autonomie et qu'elle est liée au capitalisme parce que voilà, sur tout un tas de choses, sur tout un tas de valeurs, sur tout un tas de rapports justement à l'exploitation, elle partage exactement les mêmes choses que le capitalisme. Après, elle a un rapport à la pureté, à la hiérarchisation. Parfois, peuvent diverger, parfois peuvent être autonomes par rapport à des visées capitalistes où ça serait parfois plus rentable juste d'exploiter des gens plutôt que de les exterminer ou des choses comme ça.
Donc dans un premier temps, au courant des années 80, vos apparitions sont des apparitions plus dans la rue, dans les manifestations, vous opposant à l'aveu du Front National dans certaines villes, donc une présence publique de rue.
Alors, il y a une présence publique de rue et puis il y a la volonté de faire des campagnes politiques de long terme, alors que ce soit de soutien à des gens qui sont en prison, que ce soit de soutien à la base, soit sur les questions migratoires, que ce soit avec la double peine. Plus tard, il y a un très fort travail qui est fait avec eux, où il y a un hors-série qui est sorti sur justement toutes les bavures, tout le délire sécuritaire qui se met en marche au milieu des années 80, suite à différentes émeutes après la mort, enfin l'assassinat de jeunes dans la rue par des flics.
Ou et donc, des beaufs à l'époque.
Ou des beaufs aussi, ouais. C'est vrai que maintenant c'est plus des flics que des beaufs, mais c'est d'occuper le terrain, d'être capable aussi, et ça c'est quelque chose de très fort dans le groupe Réflexe, c'est aussi d'être capable d'analyser ce que pensent et ce que fait comme droite ou ce que font les gens sur les questions sécuritaires. Voir dans les différentes, dans la revue Réflexe, il y a beaucoup d'articles qui essayent d'analyser, qui essayent de comprendre, qui essayent de savoir que quoi pour comprendre les dynamiques internes, pour voir justement où est-ce que là on peut taper pour leur faire mal, où est-ce qu'ils sont forts et qu'il faudrait effectivement développer un discours.
Il y a ça et puis il y a aussi toute cette information sur des groupes, il y a tout un travail international, puisque vous pouvez aussi analyser les groupes fascistes en Belgique, en Union soviétique à l'époque, etc. Il y a aussi cette information qu'on peut trouver dans le journal.
Effectivement, il y a toute cette dimension internationale parce que l'objectif, c'est aussi d'informer, de montrer qu'il y a un certain nombre de choses qui existent et que les gens connaissent pas. Donc, il y a aussi beaucoup d'informations sur tout plein de groupes qui sont pas forcément gros, mais qui peuvent localement poser des problèmes, entre autres, sur les questions de violence dans la rue. Et il y a cette idée que, de toute façon, ce qui se passe en France, c'est pas du tout spécifique à la France, c'est une évolution au niveau européen. Et que du coup, il faut aller voir ce qui se passe dans les pays à côté. Il faut prendre contact. On a beaucoup pris contact avec surtout les pays allemands. Enfin, surtout les Allemands, un peu le Nord et les Anglais. L'Europe du Sud est plus compliquée à aborder, même si en vrai, c'est en termes autoritaires et en termes fascistes. Et du coup, oui, il y a pas mal d'articles qui se font pour expliquer ce qui se passe à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre. Les mouvements d'extrême droite sont aussi assez forts.
Donc, dans ce texte pour expliquer l'activité des années 80, comment la banalisation des idées de l'extrême droite a opéré en France et ailleurs aussi, ce qui modifie vos interventions, votre réflexion et votre travail contre le fascisme.
L'évolution de l'extrême droite, c'est la première partie. Pour moi, c'est vraiment, raciste à l'ancienne, entre guillemets, très lié à l'idéologie de la Seconde Guerre mondiale, à l'idéologie fasciste ou nazie au sens le plus pur du terme, ou à tout ce qui est nostalgique de l'Algérie. Ça, c'est un racisme et une idéologie assez, je dirais, assez classique qui s'organise autour d'un parti, qui est le Front National. Alors, il y a quelques autres groupuscules aussi qui ont cette dynamique-là, mais à l'époque, je dirais qu'assez vite, en fait, le Front National va justement être hégémonique. Et la réponse, elle sera, je dirais, voilà, une occupation de la rue, une occupation culturelle, avec les liens qu'il y a avec punk, avec le mouvement autour des Bérus. C'est important en termes de dynamique. Voilà, c'est la jeunesse qui se met en marche et qui dit, nous, on emmerde le Front National. Donc ça, c'est la première partie, avec une vraie partie de rue où l'idée, c'est de les empêcher de s'exprimer, de les empêcher d'être dans la rue, voire justement de leurs idées.
Je me souviens quand même de comment dire, autour de ces concerts qui étaient quand même assez fréquents, de concerts des Berruriers et d'autres, comment aussi toute une jeunesse a pu se politiser en allant à des concerts, en se reconnaissant dans cette musique, dans cette expression, a pu se politiser et du coup passer de la salle de concert à la rue aussi.
Je dirais que l'éclosion des Scalps, parce que ça c'est pour le groupe Réflexe de Paris. Après il y a donc le Scalp. Et en parallèle, en fait, un peu dans toute la France, avec justement toute cette milieu culturel, avec ces concerts qui se baladent un peu partout, se pose la question de, est-ce qu'on peut amener des questions politiques, est-ce qu'on peut amener un sens à la question culturelle? En fait, des groupes comme les Bérus ont créé cette dynamique-là, où il va y avoir des problèmes avec des skins, du coup, la question de comment ça se passe dans des concerts va se poser, comment est-ce qu'on se protège, comment on s'auto-organise, pourquoi est-ce qu'on est contre eux, et du coup, il y a une politisation de la jeunesse qui se fait autour de ça. Fait qu'il y a on peut dire que dans les années, fin des années 80, il y a un vrai mouvement autour de ça. Avec des gens partout qui organisent des concerts, qui organisent des bouffes, des débats, des projections, enfin vraiment. Et ça participe à la lutte contre justement l'extrême droite. Et, les gens s'intéressent forcément aux questions, migratoires, puisque le Front National, il parle de ça, aux questions sécuritaires, et du coup, se développe une utilisation qui est, pas juste F comme fasciste, M comme nazi. Les gens ils apprennent, ils rencontrent d'autres gens aussi, d'autres milieux politiques qui font des choses, et c'est ça qui est assez intéressant dans cette époque là. Ça va durer, je pense, jusqu'à 95, avec pareil, en plus se rajoute l'histoire des mouvements sociaux, puisque au début des années 90, en fait, le Scalp de Paris va disparaître, se recréer en 92, en se fondant tout de suite avec la revue Réflexe. Sur le thème, on va avoir à la fois une revue et à la fois des gens qui vont être dans les facs, qui vont être sur le terrain et qui vont pouvoir diffuser des idées. La lutte, elle va continuer. Il va y avoir pas mal de groupes de quartiers. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils vont se mettre à travailler sur les quartiers, là où ils habitent. Et donc ça, c'est la première période, je dirais, où les gens font des marchés, ils vendent des canards sur les marchés, ils divisent des tracts, ils organisent des concerts, des manifs, des contre-manifestations, des projections, ils essaient d'ouvrir des squats pour le réel, des centres sociaux. Il y a toute cette effervescence-là. Et puis va arriver la scission du Front National en 98, si mes souvenirs sont bons, où Maigret et Le Pen s'engueulent. Alors certains sont pas d'accord, moi je dirais. Le Scalp de Mantes-la-Jolie y a participé, dans la mesure où c'est suite à l'avenue de Le Pen sur le marché de Mantes-la-Jolie, où ça se passe très très mal. Il y a plein de gens qui, et on le voit, l'image qu'il y a de l'époque, il y a plein de gens qui viennent, qui sont là, qui sont sur le terrain, qui occupent, qui essaient de nous empêcher de distribuer des tracts. Et à un moment donné, Le Pen il s'énerve, il prend son SO, il charge les gens dans le marché. Et il tombe sur l'élu socialiste. Je crois que dans mon souvenir, il la frappe pas, mais il l'agonie d'insultes et il lui fait effectivement très peur. Et du coup, elle l'attaque en justice, parce que c'est pour je sais plus quelle élection qui vient. Et du coup, il devient inéligible. Et alors, c'est du coup, c'est la guerre des chefs. Son deuxième, qui s'appelle Maigret à l'époque, dit
Me voilà,
le patron, il a pas le droit de se présenter, moi je vais y aller. Sauf que le patron, il dit ta, tu restes où t'es, c'est ma femme qui va se présenter à ma place, puisqu'elle s'appelle aussi Le Pen. Et donc, du coup, là, il y a scission, et ça va détruire en fait l'appareil du Front, qui était un appareil un peu sur le mode du Parti communiste, qui était très militant, avec des vraies fédérations, avec des gens qui mouillaient leurs chemises, qui allaient faire des collages, qui faisaient des tracts. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à militer, tous les dimanches, les gens, ils allaient vendre le journal dans le marché. À l'époque, Internet n'existait pas encore. Et du coup, c'était un espace de confrontation aussi où on pouvait nous développer un discours, essayer de les empêcher des leurs, et du coup, le rapport de force pouvait réellement s'exprimer dans la rue. Alors, des fois violemment, des fois de manière drôle, des fois de manière classique en distribuant des tracts, mais en tout cas, il existait. Avec cette scission-là, en fait, l'appareil du Front, il va scinder en deux, et en fait, il va se désagréger, les gens vont être vachement dégoûtés de ce qui s'est passé. Il y aura de fait de moins en moins d'apparitions locales. Je sais que nous, avant, on faisait des marchés tous les dimanches, maintenant. Et il y en avait, sur tous les marchés, t'avais des gens du Front qui vendaient National Hebdo, qui distribuaient des tracts du Front. Maintenant, il y en a, Marine Le Pen, elle passe, mais concrètement, il n'y a pas d'opposition possible puisqu'ils sont pas là. Maintenant, ce qui reste, ces quelques petits groupuscules peuvent être extrêmement violents, comme c'est, que ce soit dans le nord à Lille ou à Lyon, même un peu pas mal dans l'est. Là, effectivement, il y a un vrai problème dans la rue parce que eux, ils tiennent la rue et ils tiennent la rue avec la violence. Présent, typiquement à Paris, ils sont, enfin, on peut passer toute sa vie à Paris sans jamais voir des esquinaines ni des gens d'extrême droite. Je pense que c'était vachement moins possible dans les années 80.
C'est pas parce qu'ils sont pas là, visuellement, qu'ils font pas un vrai travail aujourd'hui institutionnel et qu'ils finalement sont pas encore plus présents qu'avant.
Bah, moi je pense que c'est ça le paradoxe, et en fait c'est ça qui va être l'évolution après, c'est que le front traverse une crise un peu grave, donc il y a Maigret d'un côté et le front de l'autre. C'est le front qui va l'emporter, parce que voilà, il y a la figure médiatique. Et cet appareil militant va avoir oui. Et en fait, on va se retrouver avec l'émergence, d'abord du 21 avril où il y a Le Pen qui se... 2002. Le 21 avril 2002 où en fait, donc Le Pen arrive au deuxième tour, alors que tout le monde le prédisait mort, il arrive au deuxième tour, qui est un choc et un séisme politique en France qui est juste terrible, parce que tout le monde imaginait que voilà, le Front National avait disparu, tous les gens étaient antiracistes. Bah non, bonne partie des gens en France qui sont racistes, qui adhèrent aux thèses nationales. Le Front National, en fait, il perd pas ses idées. Je dirais qu'il change de pratique. La conclusion de toute cette évolution, c'est l'arrivée de Marine Le Pen, qui, contre une partie de l'appareil et une partie de la vieille garde, va prendre les rênes du Front, et va devenir un parti classe médiatique, avec très peu d'assises militantes. De fait, je défie quiconque de passer sur un marché et de voir le Front tous les jours. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu ça.
Mais par contre, j'ai l'impression, infiltre de plus en plus l'appareil d'État. Enfin, dans certains ministères, ils deviennent de plus en plus présents.
Alors, moi, je dirais que c'est pas la structure du Front qui devient présent, c'est une évolution de la société française. Et après, l'euphorie, peut-être un peu fantasmée, ou en tout cas, qui n'aurait pas dû avoir lieu d'être. Dans les années 80, où on imagine que tout le monde est anti-raciste, tout le monde a des petites mains, SOS raciste, touche pas à mon pote. Je sais, moi, quand j'étais petit, j'en collectionnais plein. Et en fait, moi, j'ai une collection énorme à la maison. Toute cette période-là où, effectivement, on pouvait pas se dire raciste. Dire raciste, c'était pas bien considéré comme quelque chose de négatif. Et avec, alors c'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer dans le texte, l'histoire du 11 septembre, la guerre contre le terrorisme qui amène polarisation culturelle et ethno-différentialiste, dit bah voilà, en fait, on est différents, on a des cultures différentes et elles passent mélanger. Et bah du coup, en fait, il y a tout un discours qui va se remettre en branle et qui va être accepté et qui va se diffuser. Et je pense que le Front, il y a parfois a été la cause de cette banalisation, c'est-à-dire que la droite, particulièrement je pense Sarkozy, avec sa discours sur les questions d'identité nationale, en fait c'est intéressant parce que l'ensemble du mouvement politique français de gauche ont essayé d'éviter cette discussion là sur le thème. De toute façon, on sait que c'est un débat pourri, un débat biaisé, on n'y participe pas, et en fait ça a libéré une parole raciste nettement dément. C'est-à-dire que après les histoires où ils ont fait leur tour de débat sur la question d'identité nationale, moi, j'ai noté autour de moi une libération de la parole raciste où les gens disaient bah, « Ouais, je suis raciste, ouais, j'aime pas les Roms, j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Arabes ». Tout ça, c'est revenu en force avec ce débat sur l'identité nationale, avec sur la question, enfin, la dimension un peu internationale avec la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre. Où cette lepenisation, en fait, on a l'impression qu'elle revient un peu par la droite. Sur le thème, il faut contrer l'extrême droite qui est vraiment présente puisqu'elle a été en 2002. Et donc du coup, eh ben toutes les thématiques, différentialisme, où effectivement, alors c'est plus la même chose. On dit plus il y a une inégalité des races. Il y a très peu de gens qui défendent cette thématique-là. Par contre, on dit bah ouais, l'islam c'est pas bon pour la République, on peut pas l'assimiler. Ces gens-là, c'est des étrangers, il faut les mettre dehors.
Chacun chez soi.
Voilà, le chacun chez soi. Et c'est ce qu'a dit Le Pen, hein. Il a dit « Moi, je préfère ma fille à mon voisin au gars qui habite à l'autre bout de la France, l'allemand à l'autre gars qui habite à bout de la France, et ainsi de suite. »
Quelle a été votre position, justement, en 2002, le choix qu'il nous restait entre Chirac et Le Pen? Vous avez pris quelle position à l'époque?
Alors nous, on a pris une position où on en a pris vraiment plein la gueule, parce qu'on a dit, en fait, d'abord, Le Pen n'arrivera pas au pouvoir, c'est pas vrai. Parce qu'il reste une majorité de gens qui sont soit de gauche, soit qui sont de droite, mais qui se reconnaissent pas dans les idées d'extrême droite. Et donc on a dit, nous, on refuse de voter, on dit que ce qui est important, c'est de rester dans la rue et de rester mobilisé et de se battre contre les idées et la lepenisation des esprits. Nous, on pense que c'est pas vrai, parce qu'il y a souvenir, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en 2002, il y a eu une hystérie collective complètement dément. Si on disait, moi, je vais pas voter, parce que de toute façon, je veux pas choisir ni Chirac ni Le Pen parce que les deux me conviennent pas, pour des raisons peut-être différentes, mais en tout cas les deux me conviennent pas, c'est lynché. Et nous, il y a des gens qui ont essayé de tenir ces discours-là dans des manifs publics. franchement, c'était à la limite de l'émeute. Nous, même si, voilà, on a participé à la manifestation du 1er mai, où il y avait personne dans la rue, enfin, c'était énorme. Mais avec cette position de dire, voilà, nous, on va pas voter. Par contre, on continue à combattre l'extrême droite. On continue à combattre ses idées. Mais on continue aussi à combattre la lepenisation des esprits. Et on l'a bien vu après, avec l'élection de Chirac. Enfin, les ministres qu'il a mis en place. Quand même, lui, choisi comme ministre de l'Intérieur, on sait ce que ça deviendra. C'était pas forcément simple à tenir, mais je pense qu'on n'a pas eu tort, parce que de toute façon, mathématiquement, il pouvait pas gagner. Après, ce qui était embêtant, c'est qu'il soit au deuxième tour et que au deuxième tour, en termes de voix, il progresse.
On constate même aujourd'hui un courant extrêmement fort dans l'UMP qui est pour le rapprochement avec le Front National. Je veux dire, c'est un vrai débat qu'il y a aujourd'hui au sein de ce mouvement.
Donc, n'existait pas à l'époque, parce que ce qui est, enfin, on a aussi
pas ouvertement en tous les cas.
En fait. C'est pas vrai. Cette problématique-là existait. Et d'ailleurs, il y a eu deux. Alors c'était, je ne sais plus du tout en quelle année, mais c'est sur la question des régionales et des présidences de région.
Hein. Les triangulaires, ouais. Il y a des alliances.
Voilà, il y a eu beaucoup de triangulaires. Et à un moment donné, il y a Charles Mignon en Rhône-Alpes et comment il s'appelait, qui eux ont décidé de s'allier avec l'extrême droite et qui ont été blacklistés. L'espèce d'antifascisme républicain qui dit ces gens-là font pas partie de la République, donc on s'allie pas avec eux, marchait encore. Après justement 2002, puis là elle revient. Puis surtout que maintenant la gauche a pris tous les leviers de pouvoir en France, c'est-à-dire qu'ils ont le gouvernement, ils ont l'Assemblée, le Sénat, les régions à l'exception d'une ou deux je crois. Bah pour les gens droite qui veulent garder leur siège ou qui veulent conquérir des sièges, cette question-là elle se pose.
Et d'ailleurs c'est marrant parce que bien que la gauche, comme tu dis, l'ensemble des pouvoirs en tous les cas, on se rend compte que la politique n'a pas vraiment changé. On voit qu'il y a une politique qui n'est pas très différente que la précédente.
C'est un peu ce qu'on dit ce qui se dit dans les années 80 sur la question de la lepenisation des esprits. C'est comment la gauche, ça, du coup, faut vraiment remonter dans les années 80 où voilà, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, il faut bien que les gens y se rendent compte que c'est un espoir de transformation sociale. Dans la réalité, c'est la gauche qui se rallie au capitalisme le plus classique parce qu'ils deviennent des gestionnaires. C'est voilà, ils ont un budget. Et ils peuvent pas en sortir parce que voilà, le budget, il est fermé et ils doivent arbitrer. Donc ils arbitrent au début plus ou moins en fonction de considérations sociales, petit à petit, et ben en étant au pouvoir, en voulant y revenir, par justement tout le travail de sape idéologique qui peut être fait par l'extrême droite, et ben au congrès de Villepinte, la question de la sécurité, ça devient une question primordiale et c'est plus une question sociale, c'est une question purement policière. C'est l'abandon de toute référence justement à ces questions sociales, à ces questions de lutte des classes, et du coup, bah qu'est-ce qui reste? Il reste le sécuritaire. La bonne gestion, alors oui c'est sûr, hein, c'est des bons gestionnaires, ils gèrent la misère pour les pauvres et la richesse pour les riches. Et voilà, et petit à petit, l'échiquier se déplace vers la droite, que ce soit le PS, on peut pas dire maintenant que, enfin, dans le meilleur des cas, ça représente les classes moyennes, et encore dans le meilleur des cas, faut le dire vite. Et sinon, ils accompagnent la montée du libéralisme, ils accompagnent la montée de la mondialisation avec la concurrence internationale qui se met en place. Et droite ligne de leur tradition, ils continuent à faire des guerres aux quatre coins du monde pour des histoires, d'économie, de terroristes un petit peu, mais parce que ça les arrange bien. De fait, je pense pas que ce soit forcément. On peut pas dire. Enfin, moi, on a jamais dit que c'était la même chose. Par contre, ils essayent de faire les mêmes politiques, ou en tout cas des politiques qui vont dans le même sens. On voit ce discours sur les Roms, sur la question du voile. Alors oui, c'est sûr, ils sont plus. Sur les questions sociétales, ils sont peut-être un peu plus, comme diraient les Américains libéraux, ils acceptent peut-être un peu plus la question du mariage pour tous. Voilà, c'est
fin. Oui, les Anglais aussi l'acceptent, voilà. Et pourtant ils sont pas forcément gauche, donc bon, je sais pas. Je voulais revenir sur cette question du racisme, comment il a évolué justement dans les dernières des décennies. Parce que je me souviens très bien que, et tu vas peut-être éclairer ma lanterne, je me souviens très bien avoir lu dans Présent, fin des années 80, déjà cette volonté de parler du racisme en d'autres termes. C'est-à-dire de dire, effectivement, on est quand même sur des scientifiques qui disent qu'il n'y a plus qu'une seule race, la race humaine. Donc ils ne font pas de différenciation entre les noirs, les jaunes, les verts, etc. Donc il y a une nécessité de faire une échelle de valeurs différente sur d'autres bases. Et donc eux-mêmes, à cette époque-là, c'est-à-dire les théoriciens de l'extrême droite, parlaient de cette histoire de culture et disaient qu'il fallait amener les différences sur ce terrain-là. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils ont gagné. Et effectivement, les gens disent pas les Noirs sont inférieurs ou les Arabes sont inférieurs. Ils disent on a, comme tu disais tout à l'heure, une culture différente qui ne peut pas cohabiter. Donc on ne sait pas de trop d'où ça vient, mais bon, enfin voilà, je sais pas. On peut pas cohabiter, donc chacun chez soi, c'est beaucoup mieux. Comme ça, il y aura plus de conflits et nos sociétés seront pacifiées. Et on se rend compte que c'est un discours aujourd'hui qui traverse l'ensemble de la classe politique, de droite comme de gauche. Mais ce sont des théories qui viennent. Il me semble bien du club de l'horloge, mais enfin, qui viennent théoriciens fascistes.
En fait, ouais, d'extrême droite, c'est parce que pour le coup, je sais pas s'ils se revendiquent fascistes, je crois pas qu'ils se revendiquent fascistes. Et en fait, c'est après mai 68, dans les années 70, en fait, ils se rendent compte que sur la question culturelle et sur la question idéologique, en fait, l'extrême droite a perdu beaucoup de points, qu'ils sont plus capables de défendre un travail intellectuel très fort autour de la culture. Et autour de toutes ces idées-là, nous on appelle ça du racisme ethno-différentialiste, où en fait, on passe d'un racisme biologique à un racisme culturel. Et je dirais que dans les années 80, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ces groupes-là, ils ont intellectuels vachement perdus en termes de force et de capacité de propagande fin des années 90, début des années 2000, et pourtant leurs idées progressent de manière phénoménale. Après, je pense que c'est aussi concomitant avec la situation internationale et avec l'histoire du 11 septembre et avec l'histoire d'échec des civilisations où de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des gens qui se lancent dans un truc, l'islam c'est les mauvais, nous on est les gentils.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à regarder du côté la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire l'abandon de plus en plus et même dans la gauche et l'extrême gauche de l'idée de classe sociale?
Je dirais que l'histoire du racisme ethno-différentialiste, il joue à fond. Alors, il joue aussi, je pense, en partie sur la gauche, mais il joue à fond sur la droite et sur tous les conservateurs, qui permet justement de pouvoir réutiliser un discours raciste. Pour la gauche, effectivement, je pense que c'est plus sur la question de la fin de la guerre froide, la fin de, pas trop dire ça, mais cette espèce d'utopie que pouvait être le stalinisme, parce qu'en fait, en Union soviétique, c'était du stalinisme. Et du coup, la gauche a plus de perspective et a plus un projet émancipateur sur lequel s'accrocher. Où il y a toute une partie de la social-démocratie, voire même, je dirais, une partie en communiste, qui se rallie à une espèce de fin de l'histoire, et voilà, on va gérer comme on peut le capitalisme. Alors c'est sûr qu'au début, les gens, ils ont une formation politique sur la question de la lutte des classes, donc peut-être qu'au début des années 80, fin des années 80, après la chute du mur de Berlin, et début des années 80, ça se ressent au moins. Mais sauf que les générations de mi-temps passant, les gens, ils ont plus cette tradition-là de lutte des classes. Oui, on discute avec des anciens staliniens qui ont 80 ans. Ouais, pour eux, la lutte des classes, ça a du sens. On discute avec des jeunes communistes qui ont 20 ans. La lutte des classes, c'est pas tout le temps. Et même on discute avec des jeunes radicaux qui sont pas forcément communistes. La lutte des classes, des fois, on la cherche un peu beaucoup, quoi. Même si, je pense qu'il y a aussi d'autres dimensions en termes de lutte, mais sur cette question-là, effectivement. Et du coup, la gauche abandonne complètement la dimension sociale, va se rallier aux questions sécuritaires, va se rallier au libéralisme. Et du coup, il n'y a plus d'utopie. Il n'y a plus d'un avenir meilleur. L'avenir meilleur, c'est quoi? C'est de gérer la crise comme les Grecs. Un avenir meilleur, c'est on gère le bordel et advienne que pourra. C'est ça que, d'un coup, ça passe à droite, d'un coup, ça passe à gauche. Parce que à droite, ils font ça aussi, ils gèrent. Avec d'autres valeurs, avec d'autres tensions.
Donc voilà, ça, c'est un peu le constat. Le bilan en tous les cas que vous tirez de ces décennies, qui fait que petit à petit vous avez un peu abandonné le terrain de l'art. Donc du coup vous vous posez la question de quelle doit être une activité, l'activité politique antifasciste.
Alors je dirais qu'en fait on n'abandonne pas le terrain de la rue. En fait on essaie toujours d'occuper la rue, d'être présent quand il se passe des choses. C'est juste qu'à un moment donné, ce qu'on fait a beaucoup moins de prise. Et on se rend compte qu'en fait, ce qu'on pouvait faire au début des années, fin des années 90, début des années 2000, en fait, on a l'impression d'être soit tout seul, soit de prêcher dans un désert. On peut défendre, ça empêche pas les gens en face de faire ça, rallie pas des gens, permet pas nous de travailler avec d'autres gens, parce que chacun, petit à petit, va s'atomiser dans différents milieux. Et côté, on peut travailler ensemble sur la lutte antifasciste, mais tout en étant sur les questions migratoires. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette pauvre table? Toute cette dimension-là, elle disparaît. Parce que,
Mais est-ce que cette crise dont tu parles, elle regarde pas l'ensemble du mouvement?
Alors nous,
elle se cantonne pas au mouvement anti-fasciste.
Dans le texte, on essaie de l'analyser de deux façons. D'abord, il y a effectivement une crise de l'antifascisme où on se retrouve à plus avoir d'outils pour combattre l'extrême droite. Parce qu'avant, c'était simple, t'allais sur un marché, tu t'opposais, tu diffusais des tracts, tu t'exprimais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur un plateau télévisé discuter avec Marine. Il n'en est juste même pas question. Et donc, du coup, pour s'opposer à ce qu'eux, ils sont, c'est beaucoup plus compliqué. On a mal à le faire dans la rue. Ils sont beaucoup moins dans la rue. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, c'est que il y a une évolution du monde militant depuis le début des années 2000 que pour le coup je pense qu'on n'a pas vu venir. Autant l'évolution de l'extrême droite, on l'a vu venir, c'est juste que pour l'instant on n'a pas trouvé de solution. Autant l'évolution du temps, on l'a pas vu venir et on l'a pris en pleine gueule. C'est l'accélération du temps, la virtualisation de beaucoup de rapports sociaux. C'est, même si ça existait je pense dans les années 80 et 90, c'est le côté anti-orga primaire, dans le sens où l'orga représente le mal. Autant je pense que dans les années 80-90, il y avait plein de gens qui estimaient que voilà, on pouvait faire de la politique sans être organisé dans une orga, dans un groupe politique, etc. Mais les gens, ils s'organisaient, ils s'auto-organisaient, ils montaient des collectifs, ils faisaient des campagnes, ils montaient des squats. Enfin, autant maintenant, les organisations sont vécues comme quelque chose de très oppressant. Et quand je dis organisation, je parle pas du parti communiste stalinien des années 70. Hein. Ça peut être un collectif, ça peut être, je sais pas moi, n'importe quoi, une radio, un groupe de concert, enfin... C'est vraiment vécu comme quelque chose de voilà qui bride la liberté des gens. Et du coup, ben, il y a plein de petites choses qui se passent, mais c'est très éphémère. On a vachement de mal à être dans la continuité, à être dans le suivi de ce qu'on fait. Ce qui est quand même un peu la, je dirais, la marque de fabrique de Pascal Préfet, c'est que voilà, ça faisait 20, quasiment 30 ans qu'on était sur les luttes. On avait des choses où on avait des trucs à dire, une histoire, des réflexions qui s'étaient continuées même si les gens étaient plus là. Du coup, la réflexion s'était enrichie. Là, ce continuum, il existe. Les gens, ils pouf, ils papillonnent, tac, tac, tac. Et surtout, ils s'engagent pas au sens où, c'est pas qu'ils font rien. Je pense qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs dans leur coin. C'est qu'ils s'engagent pas dans le sens où, voilà, ils se sentent pas responsables d'un truc. Et s'il y a quelque chose qui marche pas ou qui leur plaît pas, ils vont ailleurs. C'est pas grave. Sauf que, pour construire un rapport de force, parce que, je pense que, la lutte contre le système, la lutte, que ce soit patriarcat, que ce soit capitaliste, que ce soit fasciste, mais c'est des rapports de force. Et ces rapports de force, ils se construisent. Pas genre, youpi là, j'arrive, j'ai un rapport de force et puis je m'en vais et puis je reviens demain. Si t'es pas là, le rapport de force il est perdu. Et les gens en face ils ont gagné. Et c'est ça le problème, c'est que on n'arrive pas à faire des choses sur la durée et à regrouper les gens. Cette évolution du militantisme, elle nous a fait très très mal parce que je pense qu'on l'a pas vu venir et que pendant longtemps en fait, enfin c'est un peu ce qu'on écrit dans le texte à la fin, on a exigé des gens qui arrivent, qui s'engagent comme nous on s'était engagé il y a 15-20 ans. Avec, bon pour ceux qui bossaient pas, un engagement plutôt total. Dans le sens où voilà, les gens ils avaient le temps, ils étaient à la fac, etc. Sauf que nous on a vieilli comme tout le monde et ben du coup ben on n'a pas le choix, on est bien obligé de se mettre à bosser d'une façon ou d'une autre, même si on essaie de développer des stratégies qui nous gardent du temps. Nous on a évolué, les gens donc on a moins de temps qu'avant. Les gens ils sont pas prêts à s'engager sur la durée, ils étaient pas prêts à reprendre la relève de ce que nous on avait pu faire. Et du coup nous pendant longtemps on a essayé justement de forcer ce truc là, de dire mais non c'est pas grave, ça va revenir, c'est juste une période. Non, c'est pas une période. Le militantisme des années 80-90, il est fini et il reviendra pas. Il faut trouver une autre façon de faire que pour l'instant on n'a pas trouvé. Après, je pense que si aussi on a décidé d'arrêter le scalp, c'est parce qu'à un moment donné on voulait pas, comme d'autres groupes politiques ou d'autres orgas, tenir en imaginant qu'un jour les jours meilleurs allaient arriver. Une organisation, un groupe, un collectif, c'est un anti sert. Eh ben, on s'en sert un maximum, et le jour où il sert plus, ben, on change. Là, on n'a pas encore trouvé un nouvel outil.
Mais... voilà, c'est ça, la dernière. Alors, donc, on en arrive un peu à la dernière. Parce que, moi, j'ai l'impression, si tu veux, que dans ce nouveau visage, du racisme, il y a quand même une nécessité, ben, de trouver des ripostes. Qu'elle soit théorique et qu'elle soit pratique, et peut-être aussi qu'il y a eu une difficulté de construire donc cette nouvelle réflexion.
Je pense qu'il y a une difficulté parce que il y a plus de gens qui étaient prêts à réfléchir avec nous, et puis parce qu'aussi à un moment donné on est arrivé aux limites de tout ce qu'on avait essayé, globalement ces trois dernières années à foirer. Que ce soit en termes de renouvellement, en termes de tentative d'apparition, mais même de stratégie d'alliance avec d'autres milieux, avec d'autres groupes, ça a globalement pas marché. On n'arrivait pas à avoir une présence, à créer des rapports de force qui nous permettaient de gagner même des petites choses. Enfin, moi, à un moment donné, quand il y a des choses qui marchent pas, quand on n'arrive pas à développer nos idées, à se développer nous, à faire des choses, juste un truc tout con, à faire des projets. Enfin, pour moi, la politique, c'est aussi ça, c'est être capable de se projeter, de développer des idées, d'essayer de les diffuser, de monter des campagnes, ça on n'y arrive plus. Et ouais, c'est à la fois, je pense, parce que cette histoire d'engagement, enfin la façon dont les gens s'engagent a beaucoup changé, que nous, bah, ouais, on a vieilli, il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire, on court plus aussi vite qu'avant aussi.
Vous avez dissous ce qui est le réflexe, ok. Vous avez toujours un local, le journal est terminé, vous l'avez arrêté.
En fait,
alors justement, alors non, le journal n'est pas fini, mais du coup, comment vous envisagez? Est-ce que vous envisagez de continuer par d'autres moyens? Comment vous en êtes de votre réflexion?
Ce qu'on voulait, enfin la conclusion qu'on est arrivé, c'est que voilà, on était dans une impasse et politiquement, on n'arrivait plus à faire ce qu'on avait. Par contre, on avait toujours envie de faire de la plainte, on n'a pas perdu le virus, toujours continuer à faire des choses. Ce qu'on s'est dit, c'est que bah voilà, le premier truc, c'était on soldait cette histoire, si possible par un texte, plutôt moi je trouve qui est plutôt pas mal, qui permettra justement aux gens après de voir et d'essayer de comprendre un peu toute notre histoire et tout ce qui s'est passé, que ça se perde pas dans le néant comme beaucoup de groupes politiques se sont perdus dans le néant.
Ou alors les perspectives.
Non, alors en termes de perspectives, donc. On a dit, voilà, on arrête l'outil, puisque l'outil, il est plus efficace et qu'il sert plus. Par contre, pour l'instant, le réseau Nopassaran continue. Pour combien de temps, je sais pas. Le Scalpreflex faisait partie d'un réseau qui s'appelait Nopassaran. Et ce réseau avait un journal qui était donc Nopassaran, pour faire simple. Donc pour l'instant, on a le Nopassaran continue un cas à sortir, même si, voilà, je pense qu'il est aussi pris dans la question de l'engagement, dans la question du numérique, dans la question du livre, qui est juste, enfin, qui est plus lu. Globalement, parce que maintenant, les gens, ils disent essentiellement sur Internet. Ça continue, qui fait qu'on a toujours le local ici, puisque le local, on le partageait à la fois pour le réseau et à la fois pour le Scalpreflex de Paris. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on arrête, on essaie de poser à un moment donné pour réfléchir, pour discuter, rencontrer d'autres gens et essayer de recréer un autre outil, sans oublier d'où on vient, parce que pour nous, enfin, on l'a écrit, on regrette pas grand-chose de ce qu'on a fait, mais on a envie de faire d'autres trucs, en ayant bah voilà toute l'expérience qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut avoir accumulé comme savoir, comme connaissance, comme relation, pour essayer de voilà de remonter une structure politique. On sait pas quelle forme ça va prendre, je pense que ça va prendre du temps, parce que voilà, c'est des discussions sur se mettre d'accord, essayer de se comprendre, essayer de voir où on en est. C'est pas forcément simple, sachant que l'idée c'est bah voilà, c'est pas de faire ça avec des vieux briscards, c'est la même chose, c'est justement d'essayer de rencontrer d'autres gens, des gens nouveaux, des gens d'autres générations, d'autres milieux culturels, d'autres milieux politiques. Ça on va voir. Je pense que de nos jours, c'est un peu difficile de définir clairement les milieux politiques dans les générations qui viennent d'arriver là. Et on va voir ce que ça donne. Je dirais qu'on est en train de discuter avec plein de gens. On se ferme pour l'instant pas de porte. Pour l'instant, ça, je dirais que ça, c'est juste en discussion.
1, 2, 3, 4
Bonne fin là! Bonne fin! Il était lui aussi en vacances avec Jacou!
Oui, alors, justement,
on était en train de discuter en aparté de.
Par rapport à ce qui est dit sur la période que j'ai vécue, c'est-à-dire les années 80, entre autres, qu'il passe dessus, mais je crois qu'il était trop jeune pour bien saisir ce qui s'était passé. Puisque je pense qu'il a commencé à militer dans les années 90, ce garçon. Alors, en 83, il y a une marche des beurs qui part des Maguettes à Lyon, qui part aussi de Marseille et qui va converger sur Paris où il y aura au mois de novembre 1983 donc 100 000 personnes dans la rue au grand étonnement de tout le monde, puisque ce sont vraiment des jeunes issus des quartiers qui s'auto-organisent et sortent vraiment dans la rue. Alors, un an plus tard, il y aura une autre marche, un peu différente de celle-ci, puisque ça sera cette fois-ci une marche qu'on appellera Convergence 84, avec les mobilettes, Donc il y aura 5 marches en France qui vont aussi converger vers Paris. Et en novembre 84, il y aura aussi, pas 100 000 personnes peut-être, mais bien 60 000 largement dans la rue à Paris. Alors, ça va déboucher sur la création de tas d'associations de jeunes issus d'immigration dans les quartiers. Par rapport à ça, le pouvoir socialiste va privilégier les petites mains qui vont naître en 84, puisque ce racisme naît en 84, d'une manière complètement séparée avec ce que je viens de raconter, avec la marge des beurres de 83 et avec Convergence 84. Et ce
racisme quand on parle de récupération et d'instrumentalisation, c'est pas quelque chose qui est fait en sous-main. C'est-à-dire que Mitterrand était un spécialiste de ça, il reçoit Julien Drey, qui à l'époque est à la SR, et il reçoit Alain Désir,
c'est ça,
qui
maintenant monte en grade.
Voilà, tout à fait, qui a bien bénéficié de son travail et de ses études en socialisme avant. Il les reçoit à l'Élysée, donc il met la focale dessus. Évidemment, les médias en braille, concentrent leurs interventions et concentrent l'analyse et l'étude et la parole du phénomène Marche des Beurs sur ces deux personnes qui, eux, évidemment, ont d'autres intérêts à la fois personnels, d'une part, mais également partidaires, puisque à l'époque, Julien Drey est à la LCR et qu'il a déjà pensé cette stratégie d'intervention dans les mouvements sociaux. Et justement, ce mouvement, comme tu l'as décrit, là, de la marche des beurs, des mobilettes, qui eux essayaient de réfléchir et de penser à ce que pouvait être une citoyenneté, à leur place, eux, dans la société, et à justement essayer de s'auto-représenter, s'auto-organiser eux-mêmes en dehors de tout filiation politique, en tout cas contrôle politique, et ben assez rapidement il va être siphonné et il va disparaître. Alors il va y avoir des résurgences après dont on a pu parler ici, hein, le MIB, Convergence 84 qui va durer encore longtemps après, l'association Bouge qui bouge, Adamarie Lélis, quelque part les comités qu'on appelle Vérité Justice, qui sont en fait des groupes,
sont là aussi, oui.
Voilà, qui sont des groupes de gens qui se mobilisent en général autour de la mort d'un jeune. Par la police en général, puisque effectivement c'était aussi important de le souligner, c'est qu'à l'époque il y avait non seulement la police, mais t'avais les beaufs qui tiraient
sur les gens. C'est bien de signaler ça, parce que maintenant il n'y a que la police qui tire. Il fut un temps, dans les années 80, il y a eu pas mal de beaufs qui ont tué des jeunes issus de l'immigration.
Remarque, il peut y avoir des beaufs dans la police. C'est
un pléonasme.
Voilà.
Alors moi, si tu veux, par rapport à ça, on peut dire que c'est de l'histoire, tout ça. Non, puisque vous allez voir, il y a eu une réunion ce week-end à Paris. 30 ans après, justement, il y a un appel pour que se refassent des marches, tout au moins des réunions qui vont avoir lieu aux Minguettes, qui vont avoir lieu à Marseille, qui vont avoir lieu dans les quatre coins de la France, en octobre, en novembre et en décembre. Et là, en décembre, il y aura une grande manifestation à Paris. Alors tout ça, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le pouvoir. C'est lié à des associations qui demeurent et qui sont dans les jeunes issus d'immigration, mais pas forcément les jeunes d'ailleurs, puisqu'on retrouve en Convergence 84, c'était beaucoup de jeunes issus d'immigration maghrébine. Là, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a des jeunes turcs, il y a des Turcs tout simplement, il y a des Kurdes, il y a l'UJFP aussi, l'Union des Juifs pour la Paix, qui sont dedans. Il y a le CRAN, c'est le
Conseil représentatif des associations noires.
C'est ça. Il y a des tas d'associations, je crois qu'il y en a une cinquantaine d'associations qui donc lancent un appel. Donc on aura certainement, et sur quelle base l'appel, toujours la même chose en fait, hein, sur l'égalité des droits. Ils posent les mêmes problèmes qu'il y a 30 ans, sauf qu'en plus maintenant il y a ce qu'ils appellent les Chibani, c'est-à-dire les vieux, hein, qui ont des droits de très maigres en France. La plupart du temps d'ailleurs, ils ont du mal à rester à venir pour toucher leur retraite et tout ça. Bon, il y a des tas de choses qui se passent pour ces Chibani. Il y a le fait que maintenant l'immigration s'est élargie. Il fut un temps qu'on avait une immigration en France qui était directement liée au colonialisme. Maintenant, elle est liée, bien sûr, on l'a vu, à l'Afrique noire, mais aussi après la Turquie. Puis maintenant, c'est l'Europe de l'Est. Puis on peut dire que tous les problèmes internationaux sont partout. Ce qui fait que c'est un autre appel, c'est-à-dire que c'est un appel qui pose le problème de l'égalité des droits.
pour ceux qui résident ici. C'est intéressant de noter le fait que ça n'a rien à voir avec la nationalité, un peu comme en 84, où on faisait la distinction entre la nationalité et la citoyenneté, la citoyenneté nouvelle.
Bon, bah alors, il faudra suivre ça, on verra bien sur quoi ça débouchera. Je crois quand même qu'il faut rester attentif et puis essayer vraiment de prendre son temps et de faire appel à l'intelligence, parce que là, ces trois dernières semaines, on a quand même été dans un climat d'hystérie où, à mon avis, favorisé par des gens qui y ont un grand intérêt. Alors, c'est qui ces gens, soyons clairs, c'est la gauche. Puisque étant donné l'année qui va passer et l'année prochaine il y a des élections, hein, notamment européennes et municipales, et donc il va falloir commencer à battre leur appel et à canaliser les gens sur leur candidature, parce que en termes de programme et en termes de propositions, ça va quand même être assez difficile vu les deux ans de merde qu'on vient de passer, quoi. Donc là, ça y est, c'est parti, on enclenche, et là-dedans, l'antifascisme, il est clair qu'il va jouer un rôle très important, et quand je parle d'antifascisme républicain, bien sûr, hein, le fait de dire que, bon, alors au premier tour on fait ce qu'on veut, vous avez le droit, mais au deuxième tour quand même il faut voter à gauche.
Oui, et d'ailleurs je crois que quand tu dis de la gauche, avec ce qui s'est passé là, c'est surtout en fait la gauche de la gauche, avec en particulier le parti de gauche, le PC, c'est-à-dire ce qu'on appelle le front de gauche.
Et là-dedans, il est vachement intéressant de voir comment, sur quel, un avant-goût en tous les cas sur ce qui s'est passé à Villeneuve-sur-Lot lors de l'élection législative, qui a vu l'élimination de la candidate du candidat socialiste au premier tour, et puis ensuite l'élection du candidat UMP face à un candidat Front National, où il y a eu effectivement un Front Républicain, etc., machin et tout, et tous les débats qu'il y a eu sur ce soi-disant Front Républicain d'un côté comme de l'autre. Et alors là, on avait une vraie préparation mentale, une vraie préparation aux esprits. D'une part, du côté de la droite, pour dire que le Front Républicain c'était pas automatique, et que donc il fallait préparer aussi les électeurs et les électrices et le peuple à une potentielle alliance locale avec du Front National. C'est ça. Et d'autre part, de l'autre côté, comment justement on allait pouvoir briser ce Front Républicain pour le donner à la gauche de la gauche, comme tu dis, et que c'est eux qui allaient défendre ça, quoi.
Évidemment. Avec leur idée de 6e République.
Évidemment. Et alors quand même, c'est assez insupportable quand on est un auditeur ou un spectateur à qui il reste quelques neurones, qui avons l'habitude quand même d'essayer de réfléchir face à ce qu'on nous propose, parce que dans cette histoire, c'est quand même vraiment à vomir, quoi. Il y a près de 60% d'abstention. Donc ouais. le candidat FN, il récolte rien du tout, quoi. Il n'y a pas de danger, ou il n'y a pas de phénomène électoral sur le Front National. Idem pour ce qui est de la présence médiatique des membres du Front National. C'est clair que ce parti, par rapport à l'influence sur les politiques publiques et par rapport à l'influence médiatique qu'il peut avoir, son assise réelle dans le pays en termes de pouvoir, il est ridicule.
La seule stratégie qu'ils ont, et je pense que là-dessus ils vont certainement gagner, c'est de faire alliance avec la droite. Alors ils risquent de faire le problème, c'est est-ce que la droite va péter ou pas, je sais pas. Mais l'avenir immédiat nous le dira. Enfin l'avenir immédiat, dans bientôt, quoi, puisque ça va être les prochaines élections bientôt, et on va voir que est-ce que le Front National arrivera à être au pouvoir comme petite main finalement de la droite, ou est-ce que la droite pourra encore s'en passer? C'est là le débat. D'un côté, dans ce qui est dit tout à l'heure, et là je tiens à le rappeler, en 2002, il y a eu effectivement ce deuxième tour entre Chirac et Le Pen, et nous, en tant qu'OCL, et puis on n'était pas les seuls, puisque Lutte Ouvrière aussi à cette époque-là était avec nous, on a refusé de voter soit Chirac, soit Le Pen, et on s'est abstenu, et on a demandé d'ailleurs à pas, sur les mêmes bases que Scalp Reflex de Paris.
Alors moi je
et
crois
là, que ça, ouais. Ça risque de se retrouver.
Tout à fait. Et en plus, pour poursuivre sur ce discours politique et médiatique qu'il y a derrière ce vote Front National, ou en tous les cas ce potentiel Front National, il y a ce truc quand même qui est salement antisocial et de la part des élites politiques et médiatiques, qui dire que le vote ouvrier s'est déplacé du PCF, ce qui était déjà pas terrible, au Front National, ce qui est encore pire. Alors que en fait c'est pas du tout le premier parti ouvrier de France, c'est l'abstention.
Ouais,
les gens ils y vont pas du tout. Et pour ceux que ça intéresserait, parce que moi je pense vraiment qu'il faut aller regarder là, s'arrêter, essayer un peu de décortiquer le discours et puis regarder un peu ce qu'il y a derrière quand même. Il y a quelqu'un qui est vachement intéressant qui a écrit dessus. Il faut pas souvent de la publicité pour des bouquins, mais bon, c'est une universitaire qui s'appelle Annie Colovald qui travaille depuis 30 ans sur le vote d'extrême droite et sur le Front National en particulier, et qui dans chacun des bouquins, bon ça peut se trouver sur Internet, elle doit faire des interventions, mais dans 5-1 de ses bouquins, explose vraiment tous ces préjugés, tous ces stéréotypes et tous ces discours.
Qui arrange bien d'ailleurs. Hein.
Bah, évidemment.
Parce que ceux qui tiennent ce discours-là, c'est généralement ceux qui nous disent que c'est de la fin de l'histoire, qu'il n'y aura plus jamais de la révolution, etc. C'est les mêmes. Hein.
Mais comment veux-tu aujourd'hui avoir un discours révolutionnaire lorsqu'on t'explique que les ouvriers ils votent pour le Front National ? C'est quelque chose qui est totalement désarmant. Alors que c'est pas du tout vrai. La France, elle est métissée et elle le restera, puisque c'est comme ça et que c'est trop tard maintenant. On peut pas virer la moitié de la population française. Si un jour il y avait un régime autoritaire de type racialiste qui arrive au pouvoir, il y aurait certainement une guerre civile. De toute façon, en plus, ces gens-là, ils n'ont pas l'appareil pour pouvoir tenir le pouvoir. Par contre, aujourd'hui, j'allais dire le non-fascisme, il est franchement autant meurtrier, ou en tous les cas, autant craignos, que le projet qu'eux, ils nous proposent. Alors, on met pas de signe égalité entre démocratie bourgeoise et fascisme. Par contre, ce qu'on dit, c'est que, aujourd'hui, pour pouvoir perpétuer et continuer leur domination, qu'elle soit de gauche ou de droite, ils vont utiliser tout ce qui est possible. Et d'ailleurs, on le voit bien là, il y a deux analystes de la banque JP Morgan, là, une grosse banque, une grosse société bancaire américaine, qui font des études sur l'Europe et qui montrent et qui démontrent que bah, ça va pas du tout, parce que les peuples se réveillent, les gens revendiquent leurs droits et c'est pas bon du tout pour l'économie, quoi. Donc si éventuellement il pourrait y avoir des régimes autoritaires pour sauter le cap des réformes, bah, ça pourrait être intéressant, quoi.
Complètement. Alors j'ai quand même, parce que le temps passe, une question à te poser. Il parle beaucoup du milieu militant et c'est d'ailleurs pour ça que ils ont arrêté de militer dans la forme scalp réflexe. Est-ce que toi qui connais un petit peu les jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui sont justement dans les mouvements antifascistes à Paris, qui sont quand même nombreux au niveau nombre, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une dépolitisation par rapport aux années 90 ?
Alors, par rapport aux années 90, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que dans les années 80, et dans les années 90, au début, il y avait un mouvement. C'est-à-dire que cet engagement antifasciste, il pouvait se greffer sur une partie de la jeunesse qui se retrouvait dans des valeurs communes et qui se mettait en place ses propres moyens d'expression de ces valeurs communes. C'est ce qu'on a appelé faussement le rock alternatif, parce que c'était beaucoup plus large que ça. De plus, il y avait une identité de classe derrière ça. C'est-à-dire que même si elle n'était pas forcément affirmée, les vecteurs et les acteurs de cette scène culturelle, de cette scène politique, de cette scène antifasciste, provenaient eux-mêmes des quartiers, provenaient eux-mêmes d'une couche sociale de la population qui était assez identifiée et identifiable. Aujourd'hui, et quand même, ouais, je crois qu'on est plus dans quelque chose qui relève à la fois du folklore, et de la culture identitaire, qui est certes important, parce qu'on a besoin toujours de quelque chose pour se mobiliser, s'identifier dans la société, mais qui malheureusement avance moins ce truc nous appartenons à un camp social, à une partie de la société, et là-dessus, je crois qu'il faudra y travailler vraiment, parce que sinon on arrive à se faire rouler dans la farine et on n'arrive jamais à aboutir à ce qu'on voudrait, quoi.
Le système du capital et la rationalité économique de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se pousser. Les gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était donc Grégoire, une parole anarchiste communiste. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue de Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, et aussi sur les sites OC Libertaire et Le Chat Noir 51.